Alors, je suis chargé donc de présenter le père Jean-Philippe Houdret qui va donner maintenant la conférence. Comme vous le voyez, il est carme. Donc, le père Houdret, carme de la province d'Avignon-Aquitaine, du couvent de Montpellier. Il est entré dans l'ordre en 1964. Le provincial était le père Marie-Eugène, qui a reçu ses premiers vœux. Il fut aussi professeur de patrologie au Studium de Notre-Dame de Vie, de 1980 à 1999, 20 ans. Et puis enfin, assistant des fédérations de carmélites. Des fils mus par l'esprit, lecture de Romains 8, 14, 17.
Dans « Je veux voir Dieu », je me limite à « Je veux voir Dieu ». J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué pour supporter mon exposé. Donc, lecture de Romains, chapitre 8, versets 14 à 17, dans « Je veux voir Dieu ». Parmi les épîtres de saint Paul, la plus longue, la plus riche, la plus importante est incontestablement l'épître aux Romains. Dans cette épître, le chapitre 8e représente un sommet. Non seulement un sommet de la doctrine paulinienne, mais certainement, je le pense, un des sommets des écrits du Nouveau Testament. Les versets 14 à 17 de ce chapitre 8e dégagent les traits caractéristiques de l'existence chrétienne. Une vie filiale, toute tendue vers le Père, sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Vie qui nous unit et qui nous conforme au Christ en nous donnant part à son mystère pascal. Je vous lis ces versets, le passage est bien connu. En effet, tous ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Ces versets occupent une place centrale dans le chapitre 8. Ils ne doivent pas être isolés, mais lus à la lumière des versets qui précèdent et des versets qui suivent. Des versets qui précèdent sur l'inhabitation de l'Esprit Saint en nous, comme principe de vie nouvelle et sainte, des versets qui suivent sur l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et sur la conformation au Christ, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Bien sûr, à l'intérieur de ce chapitre 8, qui s'achève magnifiquement par une hymne à l'amour de Dieu, victorieux de tout mal. Il n'est donc pas étonnant que le bienheureux père Marie-Eugène ait été particulièrement frappé par ce passage de l'Épître aux Romains, à en juger d'après le nombre des citations. Le verset 14 du chapitre 8, « Tous ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » apparaît ainsi comme le verset de l'Écriture le plus souvent cité dans « Je veux voir Dieu », selon l'index scripturaire. Il est en effet à 8 reprises. Mais remarquons-le, et cela a été noté à la conférence précédente, il s'agit là des citations explicites, bien repérables, comptabilisables. Mais nous avons aussi des citations implicites, des réminiscences tout autant significative, sinon plus. Pour donner un seul exemple, je pense à la fin de la longue note de la page 588, comparant la mystique naturelle, entre guillemets, et la mystique catholique, entre guillemets. Le père Marie-Eugène conclut ainsi, citation, « La mystique naturelle peut produire un surhomme parvenu à des états supérieurs. La mystique catholique produit un enfant de Dieu mu par l'Esprit de Dieu. » Nous reconnaissons ici la formulation paulinienne de l'Épître aux Romains dans cette affirmation qui veut ressaisir l'essence de la mystique chrétienne. Je vous propose de voir comment le père Marie-Eugène a repris et commenté ces versets de l'Épître aux Romains en les intégrant dans sa présentation de la doctrine carmélitaine exposée tout au long de « Je veux voir Dieu ». Je le ferai en quatre approches successives qui s'appellent et se recoupent. 1. Appelé à devenir enfant de Dieu. 2. Appelé à vivre sous la motion de l'Esprit-Saint. 3. Appelé à passer par les purifications de la nuit. 4. Appelé, justifié, glorifié dans le Christ total. Première partie, appelé à devenir enfant de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul développe l'enseignement qu'il a donné auparavant dans l'Épître aux Galates. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi, n'es-tu plus esclave, mais fils, fils et donc héritier de par Dieu. Chapitre 4, versets 4 à 7. En évoquant ainsi la plénitude du temps, to pléroma, to chrono, l'apôtre situe bien l'envoi du Fils en ce monde et le don de l'adoption filiale à l'intérieur du dessein de Dieu tel qu'il s'est réalisé pour nous dans l'histoire du salut. Le père Marie-Eugène reprend ces mêmes perspectives lorsqu'il présente le don de l'adoption filiale. Il se réfère à l'enseignement de saint Paul sur le mystère du Christ total, dont l'Église est le corps. Il souligne d'abord le caractère christique de la grâce qui nous est donnée lors du baptême. Citation, « La grâce divine » qui ne peut nous venir que du Christ, nous enchaîne au Christ et nous fait du Christ. Ainsi, nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu. Puis, il relève aussitôt l'aspect filial de la grâce. Notre grâce est en effet filiale, c'est une note essentielle. Nous avons reçu un esprit filial qui nous fait crier vers Dieu, Père, au sein de la Trinité Sainte, nous sommes fils ou nous ne sommes pas. Affirmation catégorique que nous allons retrouver dans un instant. Comme il le fait à plusieurs reprises dans « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène rappelle alors ce qu'il appelle le rythme éternel de la vie au sein de la Trinité Sainte. Citation, « Dieu, le Père, par la connaissance qu'il a de lui-même, engendre le Verbe qu'il exprime. Le Père et le Fils, par une spiration commune d'amour, produisent le Saint-Esprit. Les siècles, pas plus que l'éternité, ne changeront rien à ce mouvement. Évidemment, puisqu'il s'agit du mouvement même de l'amour intra-trinitaire. Depuis notre baptême, c'est par le Fils, qui est le Verbe incarné, que nous sommes insérés dans la Trinité sainte. En lui, nous avons part à la vie de connaissance et d'amour des personnes divines. Citation : tel est le plan de Dieu qui nous enveloppe et les desseins qu'il veut réaliser en nous et par nous. Nous serons du Christ ou nous n'aurons pas de vie surnaturelle. Nous serons fils avec le Verbe incarné au sein de la Trinité sainte ou nous serons exclus du royaume des cieux. Nous retrouvons là ces affirmations catégoriques qu'affectionne le Père Marie-Eugène. Tout au long de « Je veux voir Dieu », il ne cesse de déployer les vastes perspectives pauliniennes. Citation : l'action de l'Esprit-Saint est tout orientée vers cette réalisation effective de l'adoption divine en nous et vers cette expansion du Christ Jésus en nos âmes par la diffusion de sa grâce. L'Esprit, en chaque âme et dans l'Église, construit la plénitude du Christ, le Christ total qui est l'Église. Il précise encore, de fait, la grâce que l'Esprit-Saint répand dans les âmes est une grâce filiale qui nous apparente étroitement au Verbe en nous faisant fils d'adoption comme lui-même est fils par nature. Vient alors la citation de Romains chapitre 8 versets 15 à 17 qui en constitue le fondement scripturaire. Le Père Marie-Eugène a bien saisi l'élan vers le Père qui caractérise la vie filiale aux yeux de l'apôtre. Citation : la charité qui est diffusée en nous par l'Esprit Saint nous fait enfants de Dieu et nous apparente au Verbe au sein de la Trinité sainte. En ce caractère filial, elle trouve son mouvement essentiel. L'Esprit qui nous est donné crie « Abba, Père ». Il nous fait cohéritier du Christ et il soupire après sa part d'héritage qui est Dieu lui-même. Nous venons de Dieu et nous retournons vers lui. C'est la loi de toute la création qui s'affirme, surtout dans l'homme qui en est le chef. Comme le montre bien le Père Marie-Eugène, ce mouvement d'amour vers le Père est inséparable du mouvement d'amour vers les frères, car il est communion à la charité du Christ, le Verbe incarné, charité par laquelle à la fois il glorifie le Père et livre sa vie pour nous. D'autres pages nous donnent les mêmes échos des affirmations pauliniennes sur la filiation adoptive sans apporter d'éléments vraiment nouveaux par rapport à ce que je viens de citer. Seconde partie, appelé à vivre sous la motion de l'Esprit-Saint. Pour l'apôtre Paul, c'est la caractéristique des enfants de Dieu, des fils adoptifs du Père. Ils se laissent conduire, mouvoir, animer par l'Esprit Saint. C'est là un thème particulièrement cher au Père Marie-Eugène, vous le savez bien, car il correspond chez lui à une expérience personnelle qu'il a pu faire tout au long de son existence et dont il a bien souvent parlé au cours de son ministère. Dès le début de « Je veux voir Dieu », le Père Marie-Eugène relève clairement l'évolution qui se manifeste dans cette mouvance de l'Esprit-Saint. Et là, je vais redire des choses qui ont déjà été présentées précédemment. Il distingue ainsi une première phase durant laquelle l'âme apparaît plus active et une seconde phase durant laquelle elle devient plus passive ou, si l'on préfère, plus réceptive. Citation. Il ne sera pas inutile de signaler dès maintenant qu'en cette action conquérante de la grâce, Dieu semble tout d'abord laisser beaucoup à l'initiative et à l'activité de l'âme. Il affirme plus tard sa maîtrise, parfois en révélant sa présence, se réserve l'initiative et impose à l'âme une activité de soumission et d'abandon jusqu'à ce que, transformée par la charité en vraie fille de Dieu, elle n'obéisse plus qu'aux motions de l'Esprit de Dieu qui vit en elle. « Ii sunt filii Dei qui spiritu Dei aguntur ». Le père Marie-Eugène renvoie ici à la version latine de la Vulgate. Soulignons combien cette distinction des deux phases est fondamentale et structure l'itinéraire thérésien repris dans « Je veux voir Dieu ». La première phase correspond, nous l'avons vu, aux trois premières demeures et la seconde phase correspond aux quatre dernières demeures. On retrouve cette distinction clairement indiquée sur le tableau figurant dans « Je veux voir Dieu ». Pour éclairer l'emprise progressive de l'Esprit-Saint en l'âme durant la seconde phase, le père Marie-Eugène reprend et développe la théologie des dons du Saint-Esprit. Il montre comment, dit-il, par les dons du Saint-Esprit, Dieu intervient dans les opérations du spirituel au point d'y réaliser le vouloir et le faire et d'y devenir l'agent principal qui assure la perfection des opérations spirituelles. Le père Marie-Eugène remarque alors, n'est-il pas d'ailleurs normal que Dieu seul puisse réaliser parfaitement ces opérations de la vie trinitaire, et que par conséquent, nous ne puissions nous-mêmes y participer qu'en nous plaçant sous sa lumière et en nous laissant emporté par son mouvement. Ceux-là seulement sont les enfants de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu, dit en effet l'apôtre. En d'autres termes, Dieu seul peut assurer la perfection de nos actes divins de fils de Dieu. Fin de citation. Dans son interprétation de l'apôtre Paul, le père Marie-Eugène s'appuie sur l'enseignement de saint Thomas d'Aquin dans son commentaire de l'Épître aux Romains qu'il cite à la suite du père Garrigou-Lagrange. Il s'appuie également sur la doctrine de saint Jean de la Croix. Le père Marie-Eugène consacre un chapitre au don du Saint-Esprit, chapitre qui débute par Romains, chapitre 8, verset 14, cité en épigraphe. Il indique d'abord ses sources. L'enseignement de saint Thomas d'Aquin, repris et développé dans les écrits du père Gardeil. Au sujet des dons, le père Marie-Eugène recourt à la comparaison classique fort suggestive. Les dons sont à l'âme ce que la voile est à la barque que l'effort du rameur fait péniblement avancer. Vienne le souffle de la brise favorable qui gonfle la voile, la barque vogue rapidement vers son but alors même que cesse l'effort du rameur. Il suffit d'avoir une voile et que le vent souffle. Au-delà de l'image, percevons la réalité. Citation. Il apparaît bien ainsi que les dons du Saint-Esprit sont, selon la définition de saint Thomas, des habitus ou qualités permanentes, surnaturelles, qui perfectionnent l'homme et le disposent à obéir avec promptitude aux inspirations du Saint-Esprit. La dernière phrase est une citation de saint Thomas. Le père Marie-Eugène expose bien la différence et la complémentarité existant entre les vertus et les dons. Les vertus expriment davantage notre concours soutenu, ô combien par la grâce de Dieu, et les dons manifestent davantage l'intervention divine en nous, accueillie par nous. Les dons du Saint-Esprit, en s'intensifiant, peuvent établir l'âme, selon la formule du père Marie-Eugène, dans une dépendance quasi continuelle de l'Esprit-Saint. Et il remarque cette dépendance complète de Dieu qui s'appuie à la fois sur une pauvreté spirituelle absolue et sur le secours de Dieu continuel constitue la perfection de la grâce filiale et marque le règne parfait de Dieu dans l'âme, car il est écrit que ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu. Tout au long de « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène ne cesse de le redire, pour l'âme, la perfection n'est point autre chose qu'une emprise totale de Dieu sur elle. Ceux-là sont les vrais fils de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu, affirme l'apôtre. Vous pouvez avoir l'impression que le père Marie-Eugène se répète, bon, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, cela fait partie de la pédagogie, de redire les choses, mais il est évident que mon procédé de rapprochement des citations amplifie le phénomène. Troisième partie, appelée à passer par les purifications de la nuit. Dans le passage de l'Épître aux Romains sur la filiation adoptive, l'apôtre n'oublie pas de mentionner la participation au mystère pascal du Christ, qui est le lot des enfants de Dieu plongés dans ce mystère par leur baptême. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. L'apôtre ensuite reprend et développe le thème des souffrances du temps présent, qui ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Romains chapitre 8, verset 18. Il montre que toute la création gémit en travail d'enfantement, afin d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 8, 21-22. Ainsi, notre salut est objet d'espérance. Il est attendu avec constance. 8, 24-25. Dans cette attente, dans cette espérance, l'Esprit Saint est là. Il nous soutient dans l'attente de la rédemption de notre corps. 8, 23. Il vient au secours de notre faiblesse. 8, 26. Il nous assiste dans notre prière et intercède pour nous. Il oriente aussi notre vie selon les vues de Dieu. 8, 26, 27. Ces perspectives pauliniennes que je viens de rappeler sur les souffrances du temps présent et l'espérance de la plénitude du salut, nous les retrouvons chez le père Marie-Eugène, surtout lorsqu'il traite des purifications de la nuit de l'esprit plus précisément. Vous le savez, il intègre alors dans l'itinéraire thérésien, retracé selon la progression du livre des demeures, l'apport précieux de saint Jean de la Croix, le docteur des nuits. Après une récapitulation des phénomènes et symptômes de la nuit de l'esprit, nous avons des remarques judicieuses sur les modalités diverses de la nuit de l'esprit. Et là, il y a certaines notations qui sont assez originales. Nous avons aussi des conseils appropriés pour la conduite de l'âme quand elle traverse cette nuit. Le père Marie-Eugène est amené ainsi à rappeler la doctrine sanjuaniste sur l'espérance et la pauvreté spirituelle, puis à retracer la voie de l'enfance spirituelle à l'école de la petite Thérèse. C'est bien sûr saint Jean de la Croix qui aide à comprendre comment, dans la nuit, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il est bel et bien présent. Il agit. Il opère. Et parfois, au sens chirurgical du terme, il opère. La comparaison connue de la bûche embrasée est particulièrement suggestive et éclairante. Pour enflammer le bois et l'embraser ensuite, le feu commence par le noircir, le faire craquer, le faire suinter, il produit ce qui paraît aux antipodes de la transformation en vive flamme, et qui est pourtant nécessaire pour réaliser progressivement cet embrasement total. De même, dans le drame et les souffrances de la nuit, écrit le père Marie-Eugène, c'est la flamme de l'esprit qui agit et mène le combat. L'âme le subit, subit l'esprit. Vérité fondamentale qu'on ne se lasse pas d'affirmer tellement elle doit commander l'attitude de l'âme en cette période. En effet, le travail de cette flamme divine, comme dit le père Marie-Eugène, est bien paradoxal. La flamme est large, ardente, douloureuse. Elle investit de ténèbres et elle blesse profondément. L'âme doit en subir les assauts avec patience. Pati Deum, souffrir Dieu. Telle est l'attitude foncière qui s'impose à l'âme. Le père Marie-Eugène s'empresse de préciser qu'il ne s'agit pas d'une attitude essentiellement stoïque, mais bien d'une patience et d'un abandon amoureux à la volonté divine. C'est ici que se situe la vertu théologale d'espérance. L'apôtre Paul est cité à plusieurs reprises. Romains chapitre 8, versets 24 à 25 et versets 26 à 27. À la lumière de l'enseignement de saint Jean de la Croix, le caractère dynamique de la vertu d'espérance est mis en relief et surtout son rôle irremplaçable dans la nuit. Citation du père Marie-Eugène, « À mesure que l'espérance connaît mieux son objet et le découvre en même temps plus lointain et d'un abord plus difficile, elle se tend vers lui avec plus de force et toutes les énergies de son désir. C'est l'heure de l'espérance, une heure de crise douloureuse, mais aussi l'heure de son triomphe. Le père Marie-Eugène montre bien comment l'espérance veut saisir son objet en se portant vers lui et comment, dans l'impossibilité de l'atteindre, elle cherche à l'attirer à elle par ses gémissements et ses aspirations. Il reprend ici l'image paulinienne des gémissements, Romains 8, 26, avec d'ailleurs un certain glissement. Des gémissements de l'esprit, on passe aux gémissements de l'âme. Il note « Dieu a besoin de ses gémissements » qui disent que l'œuvre de purification se réalise et qui livrent toutes les imperfections à l'action de la flamme. En complément de l'espérance, toujours en puisant dans l'enseignement sanjuaniste, le Père Marie-Eugène présente la pauvreté spirituelle. Comme il l'observe avec pénétration, espérance et pauvreté spirituelle sont des mots et des réalités, bien sûr, qui, chez les âmes plongées dans la nuit de l'esprit, ont des résonances profondes. Ils y laissent une traînée lumineuse qui trace la route et ils y créent une paix silencieuse, déjà messagère des clartés d'aurore. Surtout vers la fin de la nuit de l'esprit. Mais on le sent bien quand on relit ces pages, le Père Marie-Eugène a hâte de développer la doctrine de l'enfance spirituelle à l'école de la petite Thérèse. Saint Jean de la Croix, c'est bien, mais la petite Thérèse, c'est peut-être encore mieux. Enseignement substantiel dont je ne retiens ici que ce beau résumé. Citation donc du Père Marie-Eugène. « Séparés de Dieu par le péché, nous sommes éclairés par sa lumière. Pris dans les liens de plus en plus étroits de son amour, jusqu'à ce que, devenus de vrais enfants, nous soyons perdus en son sein, ne vivant plus que de sa vie et de son esprit. Ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont mus par son esprit. » C'est-à-dire ceux qui, par leur pauvreté spirituelle et le dégagement d'eux-mêmes, ont perdu leurs opérations propres et sont entrés dans le sein de Dieu, où leur vie et leur mouvement dépendent en tout de l'esprit qui engendre. Tel est le sens et la valeur de l'enfance spirituelle, parfaitement réalisée. Elle est déjà la sainteté. Nous le voyons, seule l'enfance spirituelle permet d'entrer entièrement dans la filiation adoptive, car elle nous rend humbles et petits entre les mains de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de paix. Comme le déclare la petite Thérèse, citée par le Père Marie-Eugène. Quatrième et dernière partie, appelée, justifiée, glorifiée dans le Christ total. Nous sommes parvenus dans l'itinéraire spirituel à l'étape du flamboiement, pour reprendre la comparaison de la bûche embrasée. Saint Jean de la Croix a magnifiquement décrit dans la vive flamme la vie d'amour de l'âme toute embrasée par l'Esprit Saint. C'est pourquoi le Père Marie-Eugène cite longuement la vive flamme en relevant les descriptions éblouissantes de la divinisation de l'âme par l'Esprit Saint. Par exemple, de Jean de la Croix, Vive Flamme, strophe 3, numéros 9 et 10. Lui-même décrit la présence amoureuse de l'Esprit Saint en une page très lyrique qu'il convient de citer. C'est la page 1012. Nous y reconnaissons des invocations de la séquence de la Pentecôte, Veni Sancte Spiritus, des réminiscences sanjuanistes et des expressions qui sont chères au Père Marie-Eugène. En ces fêtes de joie et de lumière que célèbre cette flamme commune, comment l'âme ne chanterait-elle pas celui qui est l'intendant de tous ses biens, ce doux hôte qui habite en elle et en qui elle vit. Ce père des pauvres, ce pourvoyeur empressé et paisible, ce Dieu ami qui collabore et si suavement absorbe pour dominer, lumière de tout son cœur et rafraîchissement de tout son être, qui brille dans l'obscurité et enseigne dans la douceur de l'onction, blessure qui guérit et apaise en embrasant, flamme ardente et subtile qui enveloppe et pénètre, brasier consumant qui est partout et qui cependant se dérobe à toute étreinte, car s'il est amour, il est aussi esprit. Esprit d'amour qui se donne, flamme amie qui consume, comme il est cher à l'âme. Et sa joie est de le sentir en soi, de se sentir en lui, et si profondément, si intimement, que désormais rien ne pourra les séparer. Cette dernière considération, qui est aussi une confidence personnelle, amène le père Marie-Eugène à rappeler alors l'admirable finale du chapitre 8e de l'Épître aux Romains, les versets 35 à 39. Pour montrer jusqu'où va la transformation d'amour de l'âme en son union parfaite à l'Esprit Saint, le père Marie-Eugène s'appuie sur saint Jean de la Croix, dont il cite la vive flamme. Strophe 2, numéro 34. Tous les mouvements, toutes les opérations et inclinations que l'âme tenait précédemment du principe et de la force de sa vie naturelle sont, par le fait de cette union avec Dieu, changés en actes divins. Après être morts à ce qu'il y avait de naturel en eux, ils sont vivants en Dieu. L'âme, en tant que vraie fille de Dieu, est guidée maintenant par l'Esprit Saint, comme l'enseigne saint Paul en ces termes, « Ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Nous avons là un enchâssement de citations. Je vous cite le bienheureux Marie-Eugène qui cite saint Jean de la Croix, qui cite saint Paul, et toujours le fameux verset Romains 8, 14. Le père Marie-Eugène décrit longuement ce qu'il appelle le triomphe de l'amour. Cette domination de l'Esprit Saint en l'âme, cette emprise de l'Esprit Saint sur l'âme, emprise toujours respectueuse de sa liberté filiale. Cette union transformante, citation, aboutit à une identification au Christ Jésus, qui est son expression et son œuvre la plus parfaite. Il s'agit donc de cette identification au Christ, qui est son expression et son œuvre la plus parfaite. Nous avons là des pages magnifiques sur ce sommet, des pages qui sont gorgées de citations pauliniennes et carmélitaines. Le père Marie-Eugène achève « Je veux voir Dieu », vous le savez, par un grand chapitre sur le saint dans le Christ total. La question de l'apostolat qui lui tenait tant à cœur s'y trouve reprise avec les ultimes précisions apportées par l'ensemble de l'ouvrage. Nous y voyons comment, dans l'apostolat intégralement vécu, celui des contemplatifs apôtres, action et contemplation s'unissent et se fondent sous la motion de l'Esprit-Saint. Citation. « Pour rester avec Dieu, l'âme doit obéir à la motion de l'Esprit-Saint qui l'amène ici ou là pour réaliser son œuvre. Partout où elle est ainsi conduite, elle trouve Dieu qu'elle porte en elle et elle en jouit dans la douce clarté de son expérience intime. Elle n'est jamais plus active et puissante que lorsque Dieu la maintient dans la solitude de la contemplation. Elle n'est jamais plus unie à Dieu et plus contemplative que lorsqu'elle est engagée dans les travaux pour faire la volonté de Dieu et sous l'emprise de l'Esprit-Saint. À plusieurs reprises, le père Marie-Eugène cite le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il le fait notamment tout à la fin de « Je veux voir Dieu » lorsqu'il souligne l'emprise de l'Esprit-Saint chez les saints, emprise qui non seulement sauvegarde, mais met en valeur les personnalités avec leurs dons naturels. Retenons une dernière image qui nous est donnée du saint lorsqu'il est ainsi profondément inséré dans l'Église et associé à sa mission. Citation : Le saint n'est-elle que parce qu'il est entré par l'union transformante dans le Christ total. Identifié au Christ Jésus, il continue sa prière sacerdotale d'union. Avec l'esprit d'amour, il gémit dans l'attente de l'adoption. Romains 8, 23. Et travaille sous son emprise à consommer dans l'unité tous ceux qui sont prédestinés à reproduire par ressemblance l'image du Fils. Romains 8, 29. Et le père Marie-Eugène de conclure, « Le saint ne jouira de tout l'épanouissement des richesses de sa grâce et ne sera parfaitement glorifié que lorsque le Christ sera parvenu à sa taille d'homme parfait. Dans le Christ total, qui est l'Église, lui aussi trouve sa fin, sa perfection et sa gloire. » Conclusion. Au terme de ce parcours effectué à travers « Je veux voir Dieu », nous pouvons livrer quelques impressions advenues en cours de route. Tout d'abord, nous mesurons combien le père Marie-Eugène a fréquenté et apprécié les épîtres de saint Paul, l'épître aux Romains en particulier. Et c'est vrai aussi pour la première épître aux Corinthiens ou pour l'épître aux Éphésiens, se reporter à l'index scripturaire. Ce qui nous frappe dans les citations que j'ai rapportées, c'est la justesse de leur compréhension et de leur interprétation. Ainsi, le père Marie-Eugène a bien saisi et mis en valeur les divers aspects de la filiation adoptive relevés par l'apôtre. Et il les resitue comme lui dans la perspective du grand dessein de Dieu s'accomplissant dans l'économie du salut, économie centrée sur le mystère du Christ total. Ce qui nous frappe ensuite, c'est l'intégration harmonieuse de ces citations à l'intérieur de la doctrine spirituelle présentée dans « Je veux voir Dieu ». Ce ne sont pas seulement des citations rapportées pour cautionner un enseignement, mais à travers elles, nous percevons la cohérence entre le contenu de l'Écriture et la doctrine spirituelle exposée, puisée chez les saints du Carmel. Ce qui nous frappe aussi, c'est le bel affleurement de l'expérience spirituelle du père Marie-Eugène, qui vient donner tout leur poids aux expressions de l'Écriture. C'est vraiment évident lorsqu'il s'agit de la vie sous la motion de l'Esprit-Saint qui caractérise la filiation adoptive. C'est bien un pneumatophore, un porteur d'esprit, qui lit et commente l'Écriture. Nous comprenons finalement pourquoi le père Marie-Eugène se plaît à citer autant de fois Romains 8, 14. Ce verset, éclairé par les suivants, exprime parfaitement une double conviction qui est profondément ancrée en lui. D'une part, la filiation adoptive en Jésus-Christ qui fait de nous véritablement les enfants de Dieu, les fils du Père, est un don de l'amour absolument premier et gratuit de Dieu. Et d'autre part, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint présent en nous, qui anime de l'intérieur cette vie filiale, en opérant en nous et avec nous le vouloir et le faire, selon son bienveillant dessein. Tous ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est bien la pensée et l'expérience du Père Marie-Eugène. Terminons par une question que l'on peut se poser. Le Père Marie-Eugène est-il original dans sa manière de lire ou d'interpréter les textes pauliniens? Nous dirons que, pour les seuls versets de l'Épître aux Romains considérés ici, son interprétation demeure très proche du texte lui-même, lu selon l'exégèse littérale. Ce faisant, le Père Marie-Eugène, on peut le dire, s'insère simplement dans la grande tradition de l'Église. Il me semble qu'il y a bien d'autres textes scripturaires qui sont cités dans « Je veux voir Dieu » pour lesquels se manifeste une lecture plus personnelle et originale. Pensons à divers exposés entendus, et tout particulièrement à l'exposé du Père qui nous a bien montré comment ce célèbre chapitre sur la sagesse d'amour, qui est organisé autour de textes bibliques tirés du livre des Proverbes, de la sagesse, de Baruch, est vraiment comme un compendium sur la sagesse. Et il me semble que on perçoit mieux l'originalité du Père Marie-Eugène. C'est pourquoi cet exposé, élaboré seulement à partir de Romains chapitre 8, versets 14 à 17, dans « Je veux voir Dieu », doit être assurément complété par ceux des autres intervenants pour éclairer de manière juste le grand thème du colloque qui nous réunit à l'écoute de l'Écriture avec le bienheureux Père Marie-Eugène. Je vous remercie.
Merci pour votre exposé qui nous introduit certainement autant de raisons que nous allons vivre. Maintenant, quelques questions peut-être.
Merci beaucoup Père Jean-Philippe. Et je voulais revenir un instant sur la question des dons du Saint-Esprit.
Ah oui.
Parce que vous posez la question très justement aussi de l'originalité du Père Marie-Eugène. Je dirais un peu comme lui, pour tous les saints, il y a des aspects plus nouveaux, plus originaux et d'autres qui sont tout à fait classiques. Parce que il suit très fidèlement saint Thomas d'Aquin, qui distingue donc les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et les sept dons du Saint-Esprit. Alors il y a ce problème que saint Jean de la Croix n'en parle jamais. Et je me souviens donc avec le père Ruiz, qui est professeur spécialisé saint Jean de la Croix, donc c'était un point dont on avait parlé. Donc non pas du tout que saint Jean de la Croix nie les dons, mais il les fait rentrer dans les vertus. Or, quand on voit quand même chez saint Thomas d'Aquin, autant la doctrine des trois vertus théologales est extrêmement solide et fondée bibliquement, celle des sept dons est quand même beaucoup plus fragile quant à la base biblique. D'abord, il n'y en aurait que six dans l'hébreu. Et alors, donc là, je pense qu'il y a une question un peu d'interprétation. Et là, en particulier, saint Jean de la Croix, qui, je crois, est quand même le grand maître sur la question, il arrive justement à tout dire sur tout le cheminement. Le rapport en particulier entre les trois vertus théologales et les trois puissances de l'âme, sans parler des sept dons. Et je pense qu'on peut très bien, même, je dirais, pour ma part, je suis très fidèlement le Père Marie-Eugène, mais en interprétant qu'au fond, entre les vertus et les dons, ce n'est pas une distinction réelle, mais que les sept dons sont des modalités des vertus. Alors je crois que c'est important parce que parfois, dans certains courants dominicains, parfois, on durcissait la distinction entre les vertus et les dons. Je pense que ce n'est pas son intention.
Oui.
Mais alors, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette question, puisque tu as parlé des sept dons du Saint-Esprit.
Oui, c'est une question qui est peut-être difficile, mais il me semble que Jean de la Croix, bon, peut-être ne développe pas une théologie des sept dons du Saint-Esprit, mais au fond, il intègre la réalité. Ce qui fait qu'au fond, il y a peut-être une différence de terminologie, mais sur les réalités elles-mêmes,
sans les distinguer réellement.
Oui.
Sinon, on risque d'appauvrir les vertus théologales en en voyant seulement l'aspect actif.
Oui,
chez Saint Jean de la Croix, justement, on voit très bien que, en parlant des vertus elles-mêmes, on peut voir très bien et l'aspect actif et l'aspect passif.
Et passif, oui. Quand tu arriveras au ciel, tu pourras lui poser la question.
Alors, en attendant la vision béatifique, comme j'avoue, je suis un peu surpris de la prise de position là du Père François, mais ça mériterait un deuxième colloque, limite, je pense.
Oui.
Parce que quand même... pour l'avoir un tout petit peu travaillé, dans l'histoire de l'Église, il y a quand même toujours cette question de l'activité des vertus exercée par notre liberté, et puis un régime, comme disait saint Thomas, un régime dans lequel on est plus dans la réceptivité, dans la docilité à l'Esprit-Saint, ce qu'exprime ce verset de Romains 8. Donc là, je trouve qu'il y a un débat. important.
Oui.
Je ne sais pas si on peut le régler comme ça en fin de journée.
Avant de laisser la parole au Père Pierre pour les annonces, je voudrais remercier Monseigneur Carré de nous avoir fait l'honneur de sa présence. Voilà. Merci du temps que vous avez passé pour nous. Et d'avoir présidé notre Eucharistie. Voilà. C'est toujours important pour nous d'avoir cet enracinement dans la vie de l'Église. Et voilà, vous avez par votre présence manifesté cela. Et puis nous prenons vos intentions dans notre prière.
Simplement, je te remercie aussi. Je n'ai pas perdu mon temps, bien au contraire. Et à travers toutes les conférences et les rencontres avec les uns et les autres, ce fut une journée fructueuse. Alors. Mais j'espère en faire bénéficier le diocèse de Montpellier.
Merci, Monseigneur.